conçue, élève. Les parents ou père et mère, comment appelle-t-on l'union d'un homme et d'une femme en vue de la conception et de la prise en charge d'enfants? La communauté familiale, ou en un seul mot, un foyer, une famille. Dans un foyer, est-ce que le père et la mère ont la même fonction? Non, car vu qu'ils ont été dotés par le Créateur de forces inégales, leurs tâches sont aussi différentes. En quoi consiste la fonction de l'homme et du père? L'homme est le père qui a reçu du Créateur des forces multiples, acquiert le nécessaire pour nourrir, habiller et loger la famille. Il règle les affaires du foyer, il assigne des devoirs à chaque membre de la famille et punit les fautes. En quoi consiste la fonction de la femme et de la mère? Elle aide l'homme et le père selon ses forces inférieures. Elle met à profit ce que l'homme a gagné pour le bien du foyer. Elle aide l'homme à réfléchir à ce qui est le mieux pour le foyer et à l'exécuter. Elle nourrit les enfants dans leur tendre enfance de son propre lait et leur donne l'instruction nécessaire selon les directives de l'homme. Acte 2. Acte 2. Les personnes du sexe féminin célibataires et enceintes, selon extrait et commentaire du droit matrimonial zurichois de 1804. Une personne du sexe féminin qui est enceinte et qui ne peut pas produire une promesse de mariage de celui qu'elle indique comme le père, doit, aussitôt qu'elle remarque son état et au plus tard jusqu'au sixième mois de sa grossesse, l'annoncer au pasteur ainsi qu'au père de l'enfant. Si une telle personne peut produire une promesse de mariage selon les exigences, elle doit également annoncer son état de grossesse au père. Et si le mariage avec le père n'est pas annoncé plus tôt, elle doit annoncer son état au pasteur, et ceci au plus tard au huitième mois. Si elle oublie de le faire, la femme enceinte perd ses droits face au père. Ne peut être acceptée une plainte de la part d'une personne de sexe féminin contre une personne de sexe masculin si elle a 24 ans révolus et lui pas encore 16 ans, ni de la part d'une servante contre le fils ou autre mineur confié à la maison où elle sert, si celui-ci n'a pas 17 ans révolus, sauf dans le cas où elle-même n'aurait pas encore 18 ans. Si une femme non mariée accouche en cachette ou oublie d'appeler la sage-femme ou les fonctionnaires compétents, elle n'a plus le droit de porter plainte contre le père de l'enfant. Si une femme enceinte indique comme père un inconnu et qu'elle n'annonce pas sa grossesse avant la 25e semaine, elle doit assumer son enfant toute seule et sera encore punie sévèrement. Personne ne devrait héberger des femmes enceintes, ceci d'autant plus si elles sont étrangères, sans l'avoir annoncé aux pasteurs et aux autorités. Tous ceux qui agissent contre ce règlement seront punis sévèrement selon la loi. Les personnes qui ont hébergé une personne de sexe féminin enceinte qui par la suite abandonne son enfant sans avoir annoncé sa grossesse seront non seulement punies, mais en plus condamnées à assumer la prise en charge de l'enfant. Il est de votre saint devoir, honnête et cher père et mère de famille, de mettre sérieusement en garde les filles, afin qu'elles ne se rendent pas malheureuses par une conduite frivole, surtout avec des étrangers, qu'elles ne fassent pas de promesses de mariage avec de tels étrangers sans avoir pris conseil, car nous savons trop bien que ce genre de promesses ne sont pas reconnues valables dans la plupart des pays étrangers. Chers concitoyens et concitoyennes, prenez connaissance de tout ce qui précède afin d'être averti et d'éviter tout dommage et honte. Acte 3. Le salaire ménager selon un tract du MLF Zurich 1977. Le prix d'une femme au foyer. Femme de ménage, 60 heures par mois à 8 francs, 480 francs. Cuisinière, 60 heures par mois à 9 francs, 540 francs. Serveuse, 40 heures par mois à 7 francs, 280 francs. Bonne d'enfant, 182 heures par mois à 6 francs, 1274 francs. Surveillance des devoirs, 40 heures par mois à raison de 23 francs, ça fait 920 francs. Lessiveuse, 26 kilos de linge par mois à 1,50 francs le kilo, 39 francs. Repasseuse, 12 heures par mois à 8 francs, 96 francs. Couturière, 12 heures par mois à 8 francs, encore 96 francs. Infirmière, 4 heures par mois à raison d'11 francs, 44 francs. Ça ferait un total de 3 769. Plus, comptons pour le plaisir sexuel l'investissement affectif, en moyenne un quart d'heure par jour à 100 francs, selon le tarif moyen d'une prostituée, plus 3 000 francs. Le salaire moyen ménager devrait donc s'élever à 6 francs 769. Ces textes que nous venons d'entendre sont tirés d'un livre qui vient de paraître au Limmat Verlag et qui s'intitule Frauengeschichten ou en français L'histoire des femmes ou Histoire de femmes. Édité par deux historiennes, Elisabeth Joris et Heidi Witzig, il contient des documents tirés d'articles, de textes de loi, de procès, de tracts qui illustrent 200 ans d'histoire de la situation des femmes en Suisse. Structuré en chapitres, il nous documente sur l'image de la femme telle que véhiculée par les mass médias ou dans les livres d'école, sur la femme et le travail, la femme dans la famille, la sexualité, la violence contre les femmes, les organisations féminines et féministes. Richement illustré, c'est un superbe bouquin. Histoire de Heidi à suivre. Chronique de Heidi ou 200 ans d'histoire de femmes en Suisse. La semaine dernière, nous avions lu trois documents tirés d'un livre qui vient de paraître au Limmat Verlag et qui s'intitule Frauengeschichten, l'histoire des femmes ou histoire de femmes. Édité par deux historiennes Elisabeth Joris, Heidi Witzig, ce livre contient 300 documents qui illustrent 200 ans d'histoire de la situation des femmes en Suisse. Aujourd'hui, nous continuons notre chronique. Nous avons choisi des documents du 19e siècle pour illustrer l'histoire des femmes seules avec enfants. Nous espérons ainsi faire revivre la mémoire des femmes. Acte 1. Le cas de Fribourg. Dans le canton de Fribourg, quand une femme non mariée annonçait sa grossesse au juge de son domicile, toute une enquête selon la procédure du droit pénal s'ensuivait. Les interrogatoires prescrits ne servaient pas, comme dans les autres cantons, à régler la recherche de la paternité et à fixer une pension alimentaire, mais uniquement à prouver qu'il y avait eu violation de la loi et qu'une action pénale était nécessaire. C'est ainsi que, selon l'ordonnance relative aux grossesses et naissances illégitimes de 1821, premièrement, un père non marié d'un enfant illégitime était puni de 50 francs au premier délit, Au deuxième délit, l'amende s'élevait à 100 francs et au troisième délit, une peine de prison allant d'un à 4 ans s'ensuivait. Deuxièmement, la mère devait payer 25 francs au premier délit, 50 francs au deuxième et au troisième délit, une peine de prison de 1 à 4 ans. Troisième point, les amendes étaient doublées lorsqu'un père de famille faisait des enfants à ses subordonnés ou un patron à ses ouvrières. Celles-ci étaient en plus licenciées. Quatrième point, de même, toutes les femmes qui accouchaient en dehors du canton, sans avoir annoncé leur grossesse aux mères de leur domicile, étaient punies d'une amende double lors de leur retour dans le canton et étaient interrogées sur le lieu de l'accouchement et le destin de l'enfant. La même procédure était suivie pour toute femme qui accouchait clandestinement. Acte 2. Le cas de Anna Fischer de Meisterschwand dans le canton d'Argovie. Anna travaillait à Bâle comme passementière et était accusée en 1858 d'avoir tué son enfant nouveau-né. Depuis 2 ans, elle était liée à un passementier qui travaillait dans la même fabrique, Karl Erdi, lui aussi d'origine argovienne. Ils avaient essayé en vain d'obtenir l'autorisation de mariage. Selon son témoignage, Anna explique que lorsque son mariage a été annoncé dans sa commune, la commune de son bien-aimé a fait opposition, demandant la somme de 600 francs, nous sommes en 1858, pour délivrer l'autorisation de mariage. Le conseil communal de la commune d'Anna promet de remettre cet argent qui vient de la fortune d'Anna. L'argent n'arrive pas, l'autorisation de mariage n'est pas donnée, la suite, elle est connue. Un autre cas semblable est celui de Anna Katharina Mayer et de son amant Michael Marth, qui habitent dans le canton de Zurich. Ils ont 2 enfants confiés à Anna. Michael, d'origine tyrolienne et qui est sans sou, n'a pas reçu l'autorisation de mariage de sa commune, car celle-ci ne veut pas d'étrangères. La commune de Teuse décide alors en 1851 l'expulsion de Michael, craignant la naissance d'autres enfants illégitimes qui seront à la charge de la commune. Acte 3. La maternité Pilgerbrunn. En 1890, l'Alliance zurichoise des femmes crée la maternité Pilgerbrunn, premier foyer pour mères célibataires. Selon elle, mères célibataires déchues, et ils ont créé ça dans le but de hausser la moralité. Dans son rapport annuel de 1860, on lit « La possibilité devait être donnée aux filles déchues de se préparer au métier de mère dans le calme et sous stricte surveillance. Elles devraient ainsi réaliser que Dieu veut les amener à travers la honte à s'améliorer. L'institution a la garde des enfants aussi longtemps que la mère se comporte bien dans son travail. Il nous est difficile de donner les enfants, c'est-à-dire de les faire adopter, que nous avons appris à aimer, et ceci par la faute de la mère. Ce ne serait même presque pas faisable. Mais ne savions-nous pas que c'est la seule manière par laquelle nous arrivons à maintenir la discipline parmi les filles qui sont renvoyées? » Les voix qui s'élevaient contre les règlements qui punissaient, humiliaient, mettaient au ban de la société les mères seules se recrutaient avant tout dans le milieu des médecins. C'est ainsi que le médecin balois De Wette condamne en 1866 la jurisprudence punitive contre les mères célibataires. Elle la rend responsable pour le nombre croissant de meurtres de nourrissons et pour la mortalité infantile suite aux accouchements clandestins. De même, le psychiatre Auguste Forel, dans un discours sur l'éthique sexuelle de 1906, se heurte contre la distinction faite entre enfants légitimes et illégitimes. Il préconise que la grossesse devrait être légalisée et que la loi devait régler les devoirs des parents face aux enfants sans se soucier si ceux-ci sont liés par un contrat de mariage ou non. Avançons dans le temps. Plongeons-nous dans le XXe siècle. Et rappelons-nous que c'est seulement en 1981 que le tribunal fédéral accepte une plainte d'une mère célibataire qui voulait refuser un tuteur pour son nouveau-né.